Bonjour, bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique. Je m'appelle Jean-Noël, je suis heureux de vous retrouver sur l'antenne de Graphite. Vous nous écoutez sur le 94.9, bien sûr, pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM. Graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet, avec la possibilité de pouvoir récupérer les podcasts des émissions, bien évidemment. Et vous nous écoutez également pour la rediffusion de cette émission le mardi matin à 10h. Là, nous sommes le samedi, nous sommes le 9 avril. Et c'est au niveau de l'éphéméride, le 9 avril 1937, que le kamikaze, premier avion japonais à voler en Europe, arrive à Paris. Donc c'est en 1937, avant la guerre mondiale qui va opposer entre autres Japon et France, bien évidemment. En 1968, toujours un 9 avril, c'est le premier lancement d'une fusée à partir de la base spatiale de Kourou, en Guyane. En 1968 déjà. Naissance, le 9 avril 1816, de Charles-Eugène Delaunay, astronome mathématicien français. Il est nommé titulaire de la chaire de mécanique et machine à l'école polytechnique. Il va notamment être aussi directeur de l'observatoire de Paris. Il meurt noyé dans un accident de bateau en 1872. En fait, il inspectait la fin des travaux de la récente rade artificielle de Cherbourg. Et il meurt à ce moment-là. Astronome mathématicien français, Charles-Eugène Delaunay. Le décès, le 9 avril 1889, de Michel-Eugène Chevreul. C'est un nom qu'on ne connaît pas trop et pourtant il a eu une histoire assez intéressante et un véritable impact. C'est un chimiste français connu pour son travail sur les acides gras, la saponification. La saponification, c'est le fait de fabriquer des savons notamment. Et il est également connu pour la découverte de la stéarine. Pardon, la stéarine, c'est le constituant principal de la graisse de bœuf, de la graisse qui est contenue dans les bosses des chameaux ou dans le beurre de cacao. Et on l'utilise dans la production de savon. Donc c'est pour ça que du coup il a pu développer le principe de la saponification et aussi utilisé dans les bougies, dans l'industrie textile. Il est nommé directeur de la manufacture des Gobelins, Michel-Eugène Chevreul. Il va appuyer le travail de teinture sur des recherches sur la perception des couleurs et il va rédiger un ouvrage qui s'appelle « De la loi du contraste simultané des couleurs ». En fait, ce sont des principes qui vont avoir une influence durable sur les artistes peintres et du coup, cela est dû à ce chimiste français, Michel-Eugène Chevreul, décédé à 9 avril 1889. Dans l'actualité, il n'y a pas toujours des choses bien réjouissantes. Encore cette semaine, j'ai bien l'impression. Les deux pôles de la Terre sont actuellement confrontés à des températures extrêmement élevées depuis plusieurs jours. En Antarctique et en Arctique, les températures étaient supérieures en moyenne de saison de plus de 30 degrés. Courant mars, par exemple, c'est quand même totalement affolant. Alors que l'Antarctique s'apprêtait à entrer en automne, je rappelle que bien sûr les saisons sont inversées, il y a un record de chaleur qui a été battu le 18 mars. La station de Concordia, qui est située à 3200 mètres d'altitude, elle a enregistré moins 12 degrés Celsius. En fait, c'est près de 40% au-dessus des moyennes saisonnières. C'est quand même effrayant. Il s'agit de la température la plus élevée qui a été enregistrée là-bas, tout moins confondu. C'est assez affolant. De son côté, il y a la station de Vostok qui est située encore plus haut, là on est presque 3500 mètres d'altitude, qui a enregistré moins 17 degrés, ce qui est un record absolu. La base Dome C2 qui est située à l'est de l'Antarctique et qui est aussi élevée à plus de 3000 mètres a relevé une température de moins 10 degrés. La moyenne c'est de moins 43 à l'époque, donc moins 10, il fait chaud en fait quelque part. Moins 10 c'est la température moyenne que la zone connaît en général en janvier, c'est-à-dire en plein été pour eux là-bas. Et la base qui est à proximité des côtes affichait le même jour une température positive de 7 degrés, c'est totalement effrayant. En terre à Delhi, il y a la base Dumont-Durville qui a enregistré un record de douceur pour un mois de mars avec 4,9 degrés et une température matinale record de 0,2 degrés, c'est-à-dire une température matinale positive. Dans certaines zones de ce continent, il est même possible que les températures aient atteint des valeurs situées 50 degrés au-dessus de la normale. 50 degrés au-dessus de la normale, c'est totalement, on n'arrive pas à imaginer ce qu'il en est. Ces températures, elles sont donc exceptionnelles parce que cette époque de l'année, la température est censée rapidement chuter de jour en jour après le solstice d'été qui a lieu là-bas en décembre. De manière plus globale, la température moyenne enregistrée sur tout le continent de l'Antarctique le 18 mars se situait à presque 5 degrés au-dessus de la moyenne selon une période qu'on avait enregistrée. On fait des études, donc ça nous permet d'avoir des températures moyennes et là on se rend compte qu'on est sur l'ensemble de ce continent 5 degrés au-dessus des moyennes. Pourquoi une telle augmentation des températures ? Eh bien, la faute à une rivière atmosphérique. C'est une bande d'humidité qui circule dans l'atmosphère et qui atteint parfois certaines terres. Alors, ce phénomène n'est pas rare, mais il est exceptionnel pour l'Antarctique. Et du coup, il y a le météorologue de Météo France spécialiste de l'Antarctique, Gaëtan Hems, qui explique « La rivière atmosphérique transporte de grandes quantités de vapeur d'eau de l'océan austral vers l'Antarctique et cette région est un désert de glace avec peu de vapeur d'eau et cette vapeur d'eau augmente l'humidité, donc la neige et la nubulosité, ce qui élève les températures. Donc la vapeur d'eau fait d'ailleurs partie des gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique. » Et il est difficile de relier avec certitude cet événement isolé au réchauffement climatique. Cependant, avec le changement climatique, il est fort possible que de tels extrêmes se répètent régulièrement au cours des prochaines années. L'Arctique, aussi concerné par des températures de 30 degrés au-dessus des moyennes, c'est aussi assez affolant. L'Arctique qui affiche des températures anormalement élevées, avec des températures presque positives au pôle Nord. C'est donc un événement exceptionnel pour cette période de l'année. Il est donc particulièrement étonnant de voir des températures aussi élevées, 30 degrés au-dessus des moyennes sur certaines zones des deux pôles, avec déjà une fonte de la glace localement. En même temps, des deux côtés, justement, le jour où l'Antarctique affichait un écart qu'on évoquait donc ce jour du 18 mars, l'Arctique, lui, affichait un écart global de plus de 3 degrés sur l'ensemble du continent. C'est assez étonnant. Les deux extrémités du globe se réchauffent en effet plus vite que le reste du monde, en particulier l'Arctique, pour lequel ce réchauffement de 2 à 3 fois plus rapide qu'ailleurs sur la surface du globe. C'est des températures qui battent des records au pôle. Il va falloir veiller cela de façon assez attentive, bien évidemment. Mais là encore, une illustration de ce qu'on évoque assez régulièrement dans cette émission. On écoute Anne O'Haraud sur l'antenne de Graphite.
Lazare populaire, Lazare ou de la moire, des hauts, cochacha l'univers. Tu fais sauter, lécher la côte pour capra, prendre ce bateau dans la mer. Tu fais sauter, lécher la côte pour capra, prendre ce bateau. Kamikaze au sol, papillon d'un fanal, l'amour m'est mort mon vie. Tout au long
kamikaze sans papillon d'un fanal. L'amour mi mon movie.
Vous l'avez emmené.
C'était Anna Oaro avec Sobactor sur l'antenne de Graphite. Alors, on connaissait déjà les chiens détecteurs de cancer. Désormais, on apprend que certaines fourmis seraient elles aussi capables de différencier les cellules humaines cancéreuses des cellules saines grâce à leur odorat. Avant de retrouver ces petites bêtes dans les hôpitaux, il y a de nombreux tests cliniques qui doivent bien sûr encore être réalisés. Mais la question, c'est est-ce qu'on pourra détecter des cancers grâce aux fourmis ? C'est le pari un peu fou d'une équipe de chercheurs qui planche actuellement sur cette piste. Cette méthode représenterait une alternative moins invasive, moins coûteuse par rapport aux moyens de détection actuels. Des chercheurs du CNRS, de l'Université Sorbonne-Paris-Nord, de l'Institut Curie et de l'INSERM ont repéré une espèce de fourmi dont l'odorat est particulièrement développé, ce sont les Formica fusca. Le résultat de leur étude est publié dans la revue Science et pour mener à bien leurs recherches, les scientifiques ont effectué des tests avec 36 fourmis et dans un premier temps, les spécialistes les ont exposés à l'odeur d'un échantillon de cellules cancéreuses humaines. Cette odeur a été par la suite associée à une récompense d'une espèce de solution sucrée. On leur a donné des gâteaux, des bonbons, bref. Et dans un second temps, les chercheurs ont exposé ces fourmis à deux odeurs différentes. Et l'une était une nouvelle odeur et la seconde, eh bien, c'était celle de ces cellules cancéreuses. Et une fois ce test réussi, les chercheurs ont exposé les fourmis à différentes cellules cancéreuses. Résultat, eh bien, les fourmis font la distinction entre les cellules cancéreuses et les cellules saines et entre deux lignées cancéreuses. Après un apprentissage, eh bien, ces fourmis, les Formica fusca, sont capables de détecter les composés organiques volatiles émis par les cellules cancéreuses. Et avant d'être utilisés à grande échelle, eh bien, l'efficacité de cette méthode doit être évaluée grâce à des tests cliniques sur un organisme humain complet. C'est ce que rappelle le CNRS. Mais cette première étude montre le potentiel élevé des fourmis capables d'apprendre très rapidement à un moindre coût tout en étant efficaces. Alors, c'est pas la première fois que les scientifiques utilisent l'odorat animal pour repérer des cellules cancéreuses. Il y a le nez des chiens, bien sûr, qui est bien adapté au diagnostic médical et qui est utilisé pour la détection des fameux composés spécifiques du cancer. Cependant, leur formation nécessite plusieurs mois et à contrario, les insectes peuvent être facilement élevés dans des conditions contrôlées. Ils sont peu coûteux, ils ont un système olfactif très développé et des centaines d'individus peuvent être conditionnés avec très peu d'essais. C'est ce qu'expliquent les chercheurs. Donc voilà, on a une piste assez intéressante et assez sérieuse qui va être développée, c'est celle des fourmis qui pourraient donc détecter des cancers. Et c'est une étude d'une équipe française, bien évidemment. Donc on suivra ça, bien évidemment, ultérieurement. On part dans l'espace et on va parler des Émirats arabes qui sont assez impatients pour les rêves spatiaux. Il y a eu un premier court séjour dans la Station Spatiale Internationale. Il y a une sonde autour de Mars. La Lune est aussi dans le viseur. L'Agence Spatiale des Émirats Émirats Arabes Unis souhaite commencer son exploration en toute modestie avec un rover sur la Lune qui est lourd seulement de 10 kilos. Sa taille est petite, 53 cm de long et de large. Il va compter deux caméras haute résolution, dont une caméra thermique. Il aura également une sonde pour étudier le plasma lunaire. Son alimentation électrique se fera à l'aide de panneaux solaires posés sur ses flancs. Ce rover s'appelle Rachid. Il est très léger. Eh bien, l'agence des Émirats a pris toutes les précautions pour qu'il accroche bien le sol. Ses quatre roues sont garnies de grosses rainures. Et l'agence précise aussi qu'il est capable de surmonter des obstacles de 10 cm de haut et de descendre un plan incliné jusqu'à 20 degrés. Il est certain que le sol lunaire n'est quand même pas un sol praticable, ou en tout cas bien serein, on va dire. Et donc, du coup, l'agence a pu essayer de développer un rover qui puisse un petit peu déambuler dans des conditions un peu particulières. Cette agence a dernièrement conçu et testé un prototype du rover et il sera déposé sur la Lune par un atterrisseur japonais. Il est fourni par la compagnie iSpace. L'ensemble devrait partir vers à peu près le mois d'octobre à bord d'une fusée Falcon de SpaceX. C'est aussi un grand test, bien sûr, parce que du coup, on va pouvoir essayer de mettre concrètement au point des prototypes développés par des pays qui collaborent très peu ensemble. Et toutes ces équipes travaillaient au début dans le cadre d'un concours qui s'appelait Lunar X Prize, qui a été lancé par Google, un concours qui avait été annulé sans vainqueur en 2018, mais en tout cas certains projets ont perduré. Et donc ce rover sera déposé sur la surface visible de la Lune. C'est sur une plaine inexplorée qu'on appelle le lac des songes et qui est une plaine créée par des flots de lave basaltique, ce qui est plutôt inédit à étudier. Et donc les Émirats arabes testent un prototype de leur premier rover lunaire. Eux aussi se lancent dans la course. Il n'y a pas de raison. Et pourquoi pas?
Yeah.
BKO sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique, et vous avez bien raison. La maladie d'Alzheimer survient généralement vers l'âge de 65 ans. Elle concerne plus de 20% des individus de plus de 80 ans en France. Les manifestations les plus connues sont bien sûr la perte de mémoire et la perte d'autonomie. Même si les personnes atteintes de la maladie ne meurent pas directement, celle-ci a une influence directe sur l'espérance de vie. Par exemple, la pneumonie représente la cause la plus fréquente de décès chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Les troubles de la déglutition survenant souvent chez les malades favorisent les infections pulmonaires. L'espérance de vie à partir de l'annonce du diagnostic varie énormément d'une personne à l'autre. Ça peut aller de 3 à 12 ans en moyenne. Alors quels sont les facteurs qui l'influencent ? Il y a peu de données sur le sujet qui sont actuellement disponibles dans la littérature scientifique. Il y a une équipe d'une université du Texas qui s'est penchée sur la question et a publié ses résultats dans la revue spécialisée Journal of Alzheimer's Disease. Des données issues des dossiers de plus de 700 patients qui sont décédés de la maladie d'Alzheimer entre 2005 et 2015. Ces données ont été analysées. Il y a eu des autopsies cérébrales qui ont été menées afin de confirmer que les patients étaient bien atteints de la maladie. Les personnes incluses dans l'étude ont survécu entre 1 mois et 131 mois. Donc on est sur presque 13 ans. Sur presque 11 ans, et cela après l'annonce du diagnostic. Les auteurs de l'étude ont pu identifier 7 facteurs permettant de prédire l'espérance de vie des individus. Le facteur ayant le plus de poids statistique était la performance cognitive globale du patient au moment du diagnostic. Plus le déclin cognitif était important, plus l'espérance de vie était courte. Les autres facteurs d'une espérance de vie plus courte étaient le sexe masculin, l'âge avancé, la couleur blanche, la présence de symptômes neuropsychiatriques, des résultats anormaux aux examens neurobiologiques et une déficience fonctionnelle. C'est un petit peu tous les facteurs qui ont donc une influence sur l'espérance de vie. Prédire bien sûr l'espérance de vie des patients atteints de la maladie d'Alzheimer pourrait être une grande aide bien sûr pour les familles. Cette maladie est souvent vécue très douloureusement par l'entourage, et savoir à l'avance combien de temps il reste, tout en sachant bien sûr qu'il ne s'agit que d'une hypothèse, ça peut permettre aussi de s'organiser. Alors on ne planifie pas les choses de la même manière quand il reste 1 an ou 10 ans de vie, bien évidemment. Les auteurs ont prévu de poursuivre leurs travaux avec des échantillons de population plus importants afin de préciser ces premiers résultats. Mais voilà, on commence à identifier certains facteurs qui influencent l'espérance de vie pour les personnes atteintes de maladies d'Alzheimer. Voilà. Autre chose, peut-être un petit peu plus réjouissante, on s'en doutait et c'est désormais confirmé, les smartphones sont désormais la cible numéro 1 des cyberattaques. Il faut dire que le mobile accompagne tout le monde au quotidien et il se substitue parfois à l'ordinateur portable ou à l'ordinateur de bureau pour certaines actions. Et donc en tout, selon le dernier rapport en date de la société de cybersécurité Zimperium, et il y a plus de 10 millions d'appareils mobiles qui auraient été touchés par des cybermenaces l'année dernière. 10 millions d'appareils mobiles dans le monde auraient été donc touchés par ces attaques. L'année dernière, l'équipe de laboratoire de cette société a identifié plus de 2 millions de nouvelles souches de logiciels malveillants pour les smartphones. C'est un chiffre énorme. Énorme, car cela signifie que plus de 5000 nouvelles souches sont apparues chaque jour. Quand même faramineux. Côté menace que cherchent essentiellement les pirates, c'est ce qu'on appelle le phishing, c'est-à-dire la récupération d'identifiants. Il faut dire que sur un smartphone, l'utilisateur est moins méfiant et que des solutions de protection sont rarement installées. Et donc en tout, cette société Zimperium a détecté plus de 500 000 sites de phishing l'année dernière, et parmi eux, les versions pour mobile représentent 3/4 justement des sites de phishing. Alors les faux sites ont même explosé de 50% par rapport à l'année précédente. Et les sites sont également devenus plus sophistiqués avec l'utilisation massive de sites dotés du fameux HTTPS S, qui indique généralement un site certifié de confiance. Il devient alors compliqué de distinguer les sites légitimes des faux. La société considère qu'en seulement 2 ans, l'arrivée de la 5G, les confinements, des appareils tout le temps connectés et en dehors du bureau, eh bien tout ça a considérablement modifié la nature des attaques. Et donc c'est une révolution à laquelle l'infrastructure de cybersécurité actuelle a bien du mal à s'adapter. Et donc du coup, on nous confirme que les smartphones sont désormais la première cible des pirates. Ça c'est certain. Alors on n'évoque pas souvent dans cette émission le thème de la cybersécurité, mais il est certain que c'est un sujet qu'il faudrait qu'on aborde plus souvent, parce qu'on est là véritablement en retard apparemment face à une technologie qui avance et qui avance durablement et efficacement, bien évidemment. J'étais tellement en train, je sais pas, j'étais en train de planer. C'était Blazer Sound System avec Dracobit que j'ai même pas fait gaffe qu'on arrivait à la fin du titre. J'en suis désolé. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite, bien évidemment. Vous nous écoutez sur la bande FM 94.9 et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Les médicaments que nous prenons ont un impact sur la planète, en particulier sur les fleuves et les rivières. C'est ce que dévoile une vaste étude qui a été réalisée dans plus d'une centaine de pays. C'est ça qui est intéressant, sur tous les continents. Et ça a été centralisé par les chercheurs de l'université d'York au Royaume-Uni qui ont passé au crible plus de 250 rivières et fleuves, dont l'Amazone, le Mississippi, le Mékong. Et le but précis de cette étude, c'est de mesurer le niveau de pollution généré par la production et la consommation de médicaments. Alors, les résultats des analyses ont démontré que la majorité des cours d'eau est contaminée par des résidus médicamenteux qui se déversent dans les eaux usées et à terme dans les fleuves et dans les rivières. Et selon l'étude, un quart des sites examinés présentent des niveaux de pollution potentiellement dangereux pour les espèces aquatiques qui vivent dans ces rivières, bien évidemment. Alors, les substances responsables de cette pollution sont nombreuses. Il y a 61 composés chimiques médicamenteux qui ont été identifiés. Ils proviennent de traitements qui sont fréquemment administrés, comme les antibiotiques, les analgésiques, les anti-inflammatoires, les antidépresseurs, les stimulants. Et parmi les régions les plus polluées, on trouve notamment les pays à faible revenu où sont situées les usines de production et où le traitement des eaux usées et des déchets est encore peu développé. Alors c'est particulièrement le cas au Pakistan et en Bolivie. Seuls les cours d'eau situés en Islande et dans un village du Venezuela semblent relativement épargnés par cette pollution médicamenteuse. Cette étude a permis pour la première fois de faire un état des lieux représentatifs de la pollution médicamenteuse des rivières dans le monde, en incluant de nombreux pays pour lesquels peu voire aucune information n'était disponible. Et donc cette approche pourrait être appliquée à l'avenir à d'autres types d'environnements comme les sols ou encore les organismes vivants, avec l'idée de développer des réseaux internationaux de surveillance de la pollution. C'est ce qu'expliquent les chercheurs de cette étude dans un communiqué. Mais voilà, la pollution des fleuves et des rivières par nos médicaments est considérable. Et là, comme je vous l'ai dit, on est quand même sur une étude, sur un domaine d'étude assez important, et c'est ça qui est intéressant. En médecine, on a des informations, là encore, qui se confirment. Quand les neurones s'activent dans notre cerveau, ils ont besoin de glucose, donc de sucre, qui est un petit peu le carburant de nos cellules, et d'oxygène. Et donc, tous les deux sont transportés par le sang. Et pour assurer un approvisionnement à la hauteur de la demande des neurones, eh bien, un ensemble de mécanismes biologiques se met en place et augmente un petit peu le débit sanguin pour pouvoir apporter ce qu'il faut au bon endroit. Le phénomène a été observé dans le cortex cérébral, la couche la plus en surface du cerveau, qu'on appelle aussi la matière grise. Il y a des chercheurs de l'Université de Géorgie aux États-Unis qui se sont intéressés au même phénomène, mais dans une structure plus profonde qui est l'hypothalamus. Et ce qu'ils ont observé est plutôt surprenant. Alors, cette région cérébrale abrite des neurones dont l'activité principale est la sécrétion de ce qu'on appelle la vasopressine. C'est une hormone antidiurétique importante dans le contrôle de leur concentration sanguine en sel. Et donc, si l'augmentation du débit sanguin autour des neurones favorise leur activité, alors un excès sanguin de sel devrait être lié à l'augmentation du débit sanguin pour nourrir les neurones qui s'activent pour éliminer cette anomalie. Eh bien, les scientifiques ont observé plutôt le phénomène inverse, c'est ça qui est intéressant, et se sont rendus compte qu'au niveau de l'hypothalamus, trop de sel dans le sang entraîne une vasodilatation, donc les vaisseaux sanguins vont augmenter de volume, et donc du coup ça va diminuer le débit du sang, parce que plus on resserre un tuyau, plus il y aura de pression, plus on élargit le tuyau, entre guillemets, plus le débit diminue. Et donc, du coup, c'est ce qu'on constate, alors qu'on s'attendait quelque part à une réaction inverse. Et c'est à tel point que, localement, comme le débit du sang est diminué, les cellules sont privées d'oxygène. C'est ce qu'on appelle l'hypoxie. Alors, Javier Stern, qui est neuroscientifique et qui est le directeur de cette recherche, explique « Quand nous mangeons très salé, les niveaux de sodium dans le corps restent élevés longtemps. Nous pensons que ce phénomène d'hypoxie, donc le fait que les cellules soit privé d'oxygène, est un mécanisme qui renforce la capacité des neurones à répondre à une stimulation un petit peu continue en sel, ce qui leur permet de rester actifs sur une longue période. Alors, ces résultats amènent des questions un petit peu intéressantes sur l'hypertension qui, dans un nombre non négligeable de cas, est due à un régime alimentaire trop riche en sel. Donc, on constaterait qu'un excès de sel ralentirait le flux sanguin dans le cerveau, alors qu'on attendait un petit peu une réaction inverse. Affaire à suivre, bien sûr, c'est-à-dire qu'on pourra essayer d'affiner un petit peu tous ces résultats.